RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent. Comme chaque semaine, en partenariat avec le quotidien La Croix et en co-diffusion depuis déjà plusieurs mois avec Radio Notre-Dame. À l'heure où fleurissent à nouveau les superstitions, les intégrismes, les populismes, les obscurantismes, eh bien, il nous a semblé que nous pouvons nous interroger sur ces fameuses lumières, celles qui, au tournant des 18e et 19e siècles, ont posé les bases de ce qui est notre vie aujourd'hui, c'est-à-dire l'état de droit, l'équilibre des pouvoirs, le rejet de l'absolutisme, la démocratie représentative, sans oublier évidemment la foi dans le progrès scientifique, technique, la prééminence de la raison, la foi dans la responsabilité de l'individu. Car les Lumières, c'est tout cela à la fois, nous allons le voir dans quelques instants, nous allons nous interroger d'où sont venues ces fameuses Lumières, quels sont ceux et celles qui les ont portées, jusqu'à quel point s'est-il agi d'un mouvement véritablement européen, et puis surtout nous allons nous interroger quels en sont les restes aujourd'hui, la raison, la science, le droit, la tolérance, la liberté, le bonheur individuel, reste-t-il des horizons possibles, féconds? Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Monique Cotteret, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris-Nanterre, spécialiste de l'histoire du XVIIIe siècle. Et avec votre mari, Bernard Cotteret, décédé en 2020, vous avez travaillé de longues années sur une vaste fresque, une somme véritablement polymorphe sur ces fameuses lumières. Elle est intitulée « L'Europe des Lumières, 1680-1820 ». C'est publié chez Perrin. Voilà notre thème aujourd'hui donc. D'où viennent les lumières et sont-elles toujours d'actualité?
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Alors je l'ai dit, Monique Cotteret, vous avez co-signé avec votre mari une vaste fresque, hein, plus de 800 pages. Il faut vraiment... C'est une montagne qu'on doit gravir avec vous. Et je dois dire que je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Votre fresque est véritablement polymorphe. Elle montre une lente maturation des lumières. Elle montre toutes les nuances des lumières dans le temps et dans l'espace. Alors écoutez, une toute première question, d'où nous viennent ces lumières et d'abord, pourquoi cette dénomination? D'où vient cette dénomination?
Elle vient du XVIIIe siècle lui-même, où un certain nombre de personnages qui développaient l'esprit critique, la raison, la liberté, ont pensé que ce siècle était ou allait être le siècle de gens éclairés qui allaient ouvrir un monde nouveau.
Un monde nouveau. Alors, qui dit lumière dit en contrepartie, face à elle, obscurité.
Oui.
Contre quelle obscurité fallait-il lutter à l'époque, Monique Cotteret?
Eh bien, beaucoup contre les églises, notamment dans les Lumières françaises, qui sont certainement les plus anticléricales, voire même antichrétiennes, des Lumières européennes.
Voilà, on va développer tout ça naturellement. Mais il s'agissait vraiment de lutter contre les pouvoirs religieux, mais aussi contre certains pouvoirs politiques.
Contre les pouvoirs politiques, mais je dirais de façon diverse, selon le type de monarchie ou de république, puisqu'il y avait quand même quelques républiques sous l'Ancien Régime.
Dans des petites villes. Hein.
Voilà, Genève, les Provinces-Unies. Voilà.
Oui.
Et donc, face à certains pouvoirs, les Lumières étaient quand même plutôt dans l'opposition. Face à beaucoup d'autres, elles étaient dans la négociation, dans la réforme et dans l'envie d'améliorer les choses, mais certainement pas de tout renverser. Notamment, les philosophes français sont quand même des admirateurs de Catherine II.
Oui, et de Frédéric de Prusse.
Et de Frédéric II. Mais pour Catherine II, c'est plus délicat,
oui,
parce que sa relation aux Lumières est très superficielle.
On va en reparler. Vous avez choisi deux dates butoirs, 1680-1820. Pourquoi?
1680, donc ça nous est apparu immédiatement comme une nécessité, parce que en grande partie, les Lumières commencent en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, et que dans les années 1680, précisément 1688-1689, vous avez la grande nouveauté politique que l'on appelle la Glorieuse Révolution.
C'est-à-dire, rappelez-nous.
C'est-à-dire, on chasse les Stuarts. Mmh. Alors cette fois, on a déjà décapité un roi. On veut surtout pas décapiter Jacques II.
C'est resté un mauvais souvenir.
Voilà, on ferme les yeux quand il s'enfuit en France. Hein, on le laisse laisse partir. Ouais. Je pense même qu'on l'aide à partir discrètement. Mmh. Et arrive la fille de Jacques II, Marie, qui a épousé Guillaume d'Orange. Et donc s'installe un système dans lequel le Parlement a un rôle absolument important. Et on est dans une monarchie limitée.
C'est-à-dire non absolutiste.
C'est-à-dire non absolutiste, oui. Absolument.
Est-ce qu'on peut parler d'une monarchie constitutionnelle à l'époque en Grande-Bretagne ?
C'est toujours le problème parce qu'il n'y a jamais de constitution en Angleterre.
Mais il y en a toujours pas.
Mais voilà, c'est ça. Il y en a eu une simplement sous Cromwell. Donc voilà. Mm-hmm. Donc il n'y a pas de texte constitutionnel, mais il y a des règles de fonctionnement et il y a une relation de pouvoir entre le roi et ses parlements. Il y a un espèce d'équilibre. Oui. On est à la recherche permanente de l'équilibre.
Ce qui est toujours le cas aujourd'hui.
Oui, et cette révolution est dite glorieuse. Alors d'abord parce qu'il y a très peu de victimes, mais surtout parce qu'elle s'inscrit dans le passé, dans la tradition. Mm-hmm. Et les Anglais de cette époque font un peu comme si depuis la Magna Carta de 1215, l'Angleterre avait toujours été un pays modéré.
Souci de la continuité.
Voilà, de la tradition.
Mm-hmm. De la tradition.
Révolution et tradition.
Donc voilà. Mais ce fut un ébranlement en Europe.
Oui, bien sûr, parce que face au modèle de la France absolutiste, c'est un nouveau modèle qui apparaît. D'autant qu'il y a un philosophe, Locke, dont les travaux sont publiés à peu près en même temps, et que Locke, eh bien, c'est le développement sur le plan philosophique d'un certain empirisme dans la connaissance, et surtout l'idée de tolérance. Alors, tolérance interprotestante.
On va en parler, évidemment.
Alors, mais c'est tout de même... Oui. Il y a ces lettres sur la tolérance, c'est quand même une étape dans le développement de la tolérance.
Alors on comprend pourquoi vous avez choisi donc 1680. Pourquoi vous avez choisi 1820 comme date finale de votre étude ?
C'était moins évident.
Oui,
on y a longuement réfléchi. Tout incitait à s'arrêter en 1789. Mais c'était un peu refuser de poser le problème lumière et révolution, qui est quand même un problème important.
Et que nous allons aborder, évidemment.
Voilà. Oui. Donc, on s'est lancé dans le sujet. Et après, la date finale, bon, ça pouvait être 1815, le moment où l'Empire...
Waterloo, la fin de l'Empire.
...s'effondre. Mmh. Mais il nous a semblé intéressant de voir les débuts de la Restauration et de voir comment cette Restauration...
a été critique par rapport aux Lumières.
Voilà, se positionnait contre les Lumières.
Voilà,
et malgré tout, comment les Lumières continuaient, mais discrètement, secrètement.
Voilà. Alors, ceci étant posé, donc, vous nous avez expliqué pourquoi ces deux limites, 1680-1820. Il faut peut-être préciser que, au début de cette fresque des Lumières que vous brossez dans votre livre, donc publié chez Perrin, il existe en Europe ce que vous appelez une bipartition géographique depuis la Renaissance entre d'une part la réforme protestante et d'autre part la catholicité romaine.
Oui.
C'est structurant en Europe, cette tension, cette différence.
Oui, oui, c'est tout à fait structurant. Et nous avons étudié évidemment les Lumières en Angleterre, pays anglican, avec des dissidents, mais des dissidents protestants. Nous avons étudié les philosophes allemands, enfin dans le vaste monde germanique.
La grande diversité du monde germanique.
Et dans ce monde protestant, les Lumières sont, je dirais, alors évidemment il y a toujours des exceptions, mais elles sont du côté de la modération.
Oui.
Et elles ne sont pas du tout dans l'opposition systématique au système politique, c'est le cas de le dire. Et notamment en Allemagne, enfin dans les différents États allemands, les Lumières sont très souvent des pasteurs ou d'anciens pasteurs.
Donc des acteurs de la vie religieuse.
Voilà, et des professeurs. Les Lumières en monde germanique, c'est déjà l'université. Et ça n'existe absolument pas en France.
Dans le monde catholique ?
Dans le monde catholique en général et particulièrement en France.
Faut-il comprendre que le monde protestant à cette époque donc, est plus apte au débat, plus apte à l'échange, alors que le monde catholique est plus coincé, plus fermé, Monique Cotteret ?
Oui, j'essaie d'être très objectif. Il y a aussi un catholicisme éclairé, je pense qu'on en parlera.
Oui.
Mais globalement, oui, Disons que la raison ne pose pas de problème dans la plupart
Dans
la mouvance protestante.
Oui. Oui. Et comment vous expliquez ça?
La naissance même du calvinisme, enfin c'est de l'ensemble des mouvements protestants, c'est la critique d'une autorité.
Oui.
C'est la critique d'une tradition, c'est la critique romaine.
Il s'agit de protester.
Voilà, il s'agit de protester. Hein. Mmh. Et comme le dit Rousseau, les pères de la Réforme ont commencé la critique, ils pensaient qu'elle allait s'arrêter là.
Oui.
Elle ne s'est pas arrêtée là et eux-mêmes ont été critiqués. Mmh. Donc critique, raison...
Il
n'y a pas de problème.
Mais en tout cas, on voit bien en vous écoutant, Monique Cotteret, comment l'Europe est différenciée selon ces deux univers. Un monde protestant d'une part plus apte au débat, à la disputatio, disons, un monde catholique qui est plus verrouillé. Peut-être que le monde catholique est aussi plus lié au pouvoir politique avec l'absolutisme. Est-ce qu'on peut dire ça?
Certainement. Mm-hmm. Bon, quoique l'Église anglicane est très liée au pouvoir politique aussi.
Oui.
Hein, il ne faudrait pas exagérer les différences. Mais il est vrai que le roi de France étant un roi thaumaturge, sacré, l'évêque du dehors, disaient certains.
Désigné par Dieu.
Voilà, donc ça laisse tout de même une part très limitée à la contestation.
D'accord. Mais globalement, peut-on dire, Monique Cotteret, que les Lumières sont issues des christianismes?
Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous commençons le livre par quelqu'un que nous aimions beaucoup tous les deux, qui est un oratorien, qui s'appelle Richard Simon, tout à fait catholique, et qui, justement, travaille sur la Bible pour montrer aux protestants que leur idée de la Bible seule, scriptura sola, l'écriture seule, ça ne tient pas, parce que la Bible n'est pas un élément aussi facile, aussi immédiat. Mm-hmm. Et notamment, Richard Simon est l'un des premiers, peut-être après Spinoza, à dire que le Pentateuque ne peut pas être d'un seul homme, donc n'a pas été entièrement rédigé par Moïse. Ce qui fait que c'est en 1678 que son histoire critique du Vieux Testament est un des textes les plus fondamentalement éclairés du siècle.
Et c'est un texte catholique.
Catholique. Mais le pauvre Richard Simon est persécuté par Bossuet.
Et il a laissé une trace modeste.
Modeste.
Les racines du présent. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Au micro Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en compagnie de notre invitée Monique Cotteret, professeure émérite à l'Université de Paris-Nanterre, spécialiste de l'histoire du XVIIIe siècle, qui co-signe avec son mari aujourd'hui décédé, Bernard Cotteret, une vaste fresque publiée chez Perrin intitulée « L'Europe des Lumières, 1680-1820 ». Et donc avec notre invitée Monique Cotteret, nous essayons de comprendre l'origine de ces lumières et puis les conséquences encore aujourd'hui. Alors je voudrais vous proposer une première pause musicale, Monique Cotteret. On va écouter cet extrait de la comédie musicale Les Misérables avec cette fameuse chanson La faute à Voltaire, interprétée par Claude-Michel Schoenberg. Ça nous permettra dans un instant d'aborder ce grand philosophe.
Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau.
Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire.
Sur terre, même Dieu ne sait pas comment. Je n'ai ni père ni mère qui me reconnaissent leur enfant. Je me suis fait une famille avec ceux qui n'en ont pas. Joyeux de rien gagner avec un cœur gros comme ça.
Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Joie et mon caractère, c'est la faute à Voltaire. C'est la faute à...
Je suis un va-nu-pied, mais nul le pied va quand même. Je prends ce qui me plaît pour payer pas de problème. Je fais des pieds de nez aux marchands et à leur dame.
Et pour te rattraper, il leur faut plus l'agenda.
On me connaît partout de clients courts à Belleville. Je suis aimé partout sauf par les sergents de ville. Je vis de ce qui vient et de ce qui ne vient pas, sans savoir à l'avance menu du prochain repas. Misère et mon trousseau,
c'est la faute à Rousseau.
C'est la faute à Rousseau, c'est la faute à Voltaire. Monique Cotteret, vous qui avez brossé cette vaste fresque, l'Europe des Lumières, 1690-1820 chez Perrin. Les Lumières, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau?
Pas vraiment, parce que oui. Les Lumières ont commencé avant.
Avant.
Mais il est certain que ces deux philosophes, donc le français, le genevois, ce qu'on oublie toujours.
Oui, hein, il faut le rappeler.
Rousseau et genevois. Enfin, il a cessé de l'être, puis il est revenu, mais
il est donc issu de la République de Genève.
Il est issu de la République, il est citoyen,
oui.
Et il est tout à fait dans cette culture genevoise, hein, du contrat social. Il dit que c'est la constitution idéale de cette petite République. Idéal et idéalisé, mais il l'admet bien.
Mmh.
Et alors, Voltaire, ben, c'est le grand homme des Lumières, celui qui a un rayonnement absolument européen.
Rappelez-nous, quel a été l'apport de Voltaire à ces Lumières?
Le premier...
Et quelles ont été ses relations avec les pouvoirs politiques?
Alors, le premier apport de Voltaire, c'est les lettres philosophiques ou les lettres anglaises. Donc, c'est lui qui fait connaître en France et diffuser, quelques intellectuels le connaissaient avant, mais qui diffuse à la fois la pensée de Locke et surtout les théories de Newton. Donc, si le monde devient infini, c'est grâce à Newton, mais on le sait par Voltaire. Par Voltaire d'ailleurs et par sa compagne, il y a peu de femmes dans cette histoire,
oui.
Mais celle-ci est tout de même très importante puisque c'est une scientifique et c'est elle qui fait la première traduction des œuvres de Newton en français dont on s'est servi très 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 longtemps et dont je pense on peut encore se servir.
Donc on comprend en vous écoutant Monique Cotteret l'importance de la science dans la construction des Lumières. On porte désormais, on s'autorise à porter un regard scientifique
bien
sur le monde et non plus exclusivement un regard religieux, c'est ça?
C'est tout à fait exact. Oui. Mm-hmm. Oui. Et donc Voltaire est très important parce qu'il opère ce transfert. C'est là qu'il dit qu'un Anglais peut aller au ciel par la voix qui lui chante. Enfin, c'est un peu, il le dit mieux que ça, mais c'est l'esprit. L'Angleterre a eu une histoire violente, lui il ne nie pas la violence de l'histoire anglaise, mais pour parvenir à un équilibre. Et donc c'est évidemment le modèle contradictoire par rapport à la monarchie absolue. Ceci dit, Voltaire est un admirateur de Louis XIV.
Quel point ?
Tout ce qui relève de Colbert, en fait. L'organisation de l'économie.
Là, on va en parler,
la centralisation du pouvoir. Bon, ceci dit, ce qu'il reproche à Louis XIV, c'est évidemment la révocation de l'édit de Nantes.
Alors, sur votre livre, vous avez une très très belle couverture et on voit Voltaire.
Oui.
On voit Voltaire en bas à droite. Racontez-nous ce tableau. Nous sommes... où sommes-nous? Il s'agit d'un repas, manifestement.
Oui, donc...
Où sommes-nous?
On voulait à la fois le personnage, quand même le personnage central, Voltaire, et on voulait l'Europe.
Mm-hmm.
Donc, finalement, c'était très, très limité. C'est Sans Souci et c'est le repas de Frédéric II, donc le despote éclairé type, avec des philosophes, des savants, son académie.
Voilà, on sent qu'il y a beaucoup d'ambiance à table, on sent qu'on débat. Despote éclairé, dites-vous, comment comprendre ce paradoxe?
Bien entendu, ce n'est pas un terme de l'époque, mais un certain nombre de rois, d'empereurs, ont une politique qui elle-même se veut éclairée, qui est en accord avec les philosophes. Alors, Frédéric II, c'est vraiment celui qui carrément fait la cour à Voltaire pendant un certain moment. Hein.
Quelle belle expression.
Après, oui. Ils s'entendent oui. beaucoup moins, mm-hmm. mais il essaie de créer à Berlin une espèce d'Athènes du Nord. D'ailleurs, oui. on l'appelle le Salomon du Nord. Enfin, et les philosophes sont très, très admiratifs de Frédéric II.
Jusqu'à quel point le mode de gouvernement de Frédéric II était-il opposé ou différent ou éloigné du mode de gouvernement du Royaume de France à l'époque?
Alors, ce qui fait le point commun, c'est le caractère centralisateur et autoritaire.
Mmh. Autoritaire.
Autoritaire, oui. Les despotes éclairés, ils ne le reconnaîtraient pas eux-mêmes, mais le mot despote leur va très bien. Enfin, ils sont tout de même très, très, très autoritaires.
Le courrier de Voltaire est lu par la police.
Bien entendu.
Comme oui. Voilà,
ça
d'accord.
Va de soi,
okay.
Ça va de soi.
Voilà.
Mmh. Et dès qu'on déplaît au souverain, on perd tout mmh. avantage.
Et pourtant.
Mais Frédéric II, alors, c'est la tolérance. Lui-même, tout un protestant fort peu croyant, mais mmh. qui respecte les apparences. Il a tous ceux qui sont persécutés en Europe peuvent faire appel à sa protection. Hein. Même Rousseau, quand il est persécuté, il veut d'abord se réfugier chez Frédéric II. Puis ses amis l'amènent en Angleterre. Enfin, c'est une autre histoire. Mmh. Donc, il a ce rôle de protecteur des intellectuels éclairés. Et puis, ce que les despotes éclairés ont en commun, c'est très souvent une profonde réforme de la justice.
De la justice,
oui. Tolérance et
c'est-à-dire,
justice.
Il faut rappeler quel était le cadre général de fonctionnement de la justice à l'époque.
Eh bien, si on prend le Royaume de France, c'est effectivement assez redoutable,
oui.
Puisque ce n'est pas la preuve qui fait la condamnation, c'est l'aveu.
C'est l'aveu qui peut être obtenu par divers moyens, disons.
Et la torture oui. est dans le schéma normal.
Absolument.
Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est établi, institutionnel, etc. Mm-hmm. Et alors, ce qui va bouleverser tout ça, c'est un Milanais qui s'appelle Beccaria, avec un magnifique traité des mmh. délits et des peines qui va influencer toutes les puissances européennes.
Alors, en vous écoutant, Monique Cotteret, on sent que cet édifice européen, certes diversifié, partagé entre protestants et catholiques, mais cet édifice, à partir de cette fin du XVIIIe siècle, connaît un certain nombre de lézardes, disons, de remises en cause, d'ébranlements. Mmh. Et que c'est cela qui va évoluer au fil du temps, c'est bien ça ?
Alors, si nous passons à cette fin du siècle, oui. aux années 1780, y a des choses positives. Dans beaucoup de pays d'Europe, la justice a déjà évolué. On est en train de constituer des codes et donc on se préoccupe du droit naturel, du droit positif et on essaie d'améliorer les choses.
On peut parler de droit de l'homme ? Non, pas encore. C'est trop tôt.
Ça va arriver, ouais. mais ça va arriver.
C'est en germe.
Oui, si vous voulez, le grand tournant, c'est évidemment la Révolution américaine.
Oui.
Et donc là, c'est un tournant parce que on a une république qui n'est plus pour une cité-État ou pour un petit pays comme les Provinces-Unies, mais qui est pour un pays potentiellement immense. Donc cette notion de république va s'acclimater et d'autant plus dangereusement en France que la France est l'alliée des Américains.
Et soutient
la révolution américaine. Fait la guerre et oui. dépense
beaucoup d'argent.
Folle oui. somme pour aider les
L'État
Américains.
S'endette. Voilà. L'État français s'endette lourdement.
Et c'est autour des années 1780 qu'un mot, alors je ne dirais pas qu'il apparaît parce qu'il existe déjà, mais prend un sens nouveau, c'est le mot constitution.
Ah, oui.
Si vous revenez au début du siècle, mmh. la constitution c'est un texte papal. C'est la constitution unigenitus, c'est une bulle qui énumère un certain nombre de points contestables.
Mmh. De la part du pape,
oui, c'est ce oui. qu'on appelle. D'ailleurs, je pense que quand Paoli propose sa constitution pour la Corse, il a encore dans son mmh. cerveau l'idée de cette constitution.
Donc c'est un acte juridique d'un monarque absolu.
Voilà.
Voilà.
Et progressivement, le mot constitution prend le sens politique que vont lui donner les États-Unis, la France,
d'accord.
etc.
Donc on comprend en vous écoutant, Monique Autrey, la remise en cause progressive du système judiciaire, peut-être aussi du système politique. Vous avez cité le mot république. Revenons un instant sur Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau était donc issu de la République de Genève, une république protestante. Mmh. Il était citoyen. Quel regard portaient les voisins de Genève sur cette expérience politique?
Mais en tous les cas, la France, qui était parmi ceux qui surveillaient cette expérience politique, était tout à fait heureuse de son évolution. Parce que du contrat social, c'est Genève idéale. Mmh. Mais la Genève réelle évolue vers une oligarchie. Et les pasteurs genevois, comme le dira maladroitement d'Alembert, sont parfois presque déistes. Donc évidemment, une fois qu'ils sont accusés, ils se défendent. Oui. Mais il y a cette évolution de la société des élites genevoises vers une oligarchie. Et ce que représente Rousseau et ce qu'on appelle le parti des représentants, c'est la volonté de revenir à une Genève beaucoup plus démocratique. D'où des révolutions.
Une Genève démocratique, c'est un gros mot à l'époque?
Pour les Genevois qu'on appelle les négatifs, ceux qui veulent pas d'évolution, parce qu'ils veulent que c'est très très négatif. D'accord. Et pour Voltaire aussi.
Ah oui.
Ah ben oui, parce que les représentants, c'est le patriotisme genevois. Donc c'est un protestantisme, alors s'être ouvert mais pas trop, et puis surtout c'est une hostilité à la France, une hostilité à ses valeurs et notamment au théâtre. Alors là, Voltaire aurait pu pardonner beaucoup de choses à Rousseau, mais pas ça.
C'est-à-dire
que Voltaire critique, que Rousseau, pardon, critique l'installation d'un théâtre à Genève.
C'est un point de désaccord profond.
Ah oui, il devient ce chien de Rousseau, l'énergumène, le Diogène, enfin l'horreur.
Et pourquoi Rousseau critique-t-il l'installation d'un théâtre à Genève?
Parce que justement, il veut que Genève retrouve ses valeurs patriotiques, démocratiques, et ne copie pas la France.
Mais en quoi est-ce que un théâtre... Essayez de nous expliquer plus précisément ce point qui peut nous intriguer.
Le théâtre, c'est pour Voltaire, qui est un auteur de théâtre. On a un peu oublié son théâtre, mais au XVIIIe siècle, il est avant tout l'auteur d'un certain nombre de pièces qui ont eu énormément de succès. Et pour lui, c'est le marqueur d'une société éclairée. Mmh. Et Rousseau ne critique pas le théâtre en soi. Il y va d'ailleurs. Donc il assiste à certaines genres de pièces. Mais il veut retrouver les valeurs intrinsèques, on pourrait presque dire primitives, de la Genève qui s'est révoltée contre l'évêque. Et cette Genève-là avait refusé le théâtre.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Dans cette édition des Racines du présent, nous essayons d'ausculter ce phénomène très important dont nous sommes issus, avec notre invitée, l'historienne Monique Autrey, co-auteur avec son mari aujourd'hui décédé, Bernard Autrey, d'une somme intitulée « L'Europe des Lumières, 1690-1820 ». Nous essayons de voir quels sont les courants de pensée d'origine, et quels sont les hommes et les femmes qui ont construit les Lumières. On vient d'évoquer la réforme judiciaire, on vient d'évoquer Rousseau, Voltaire, on vient d'évoquer Genève, Genève et le protestantisme. Je pense que ça peut être l'occasion d'évoquer l'économie. L'économie, on sait que les dernières années du règne de Louis XVI ont été marquées par de très très grandes difficultés économiques. Et on a vu apparaître Turgot et puis aussi Necker qui lui-même était originaire
de Genève.
De Genève, Et Necker qui était protestant.
Protestant, banquier, ça faisait beaucoup de raisons de ne pas devenir ministre de Louis XVI, mais bon, on avait besoin d'argent et donc on a fait appel aux banquiers.
Mais comment le roi Louis XVI a-t-il... Est-ce qu'on peut dire qu'il a eu du courage de faire appel à Necker, ou que la situation était tellement désespérée qu'il fallait un vrai technicien, un technocrate comme on dit aujourd'hui? Ou est-ce que l'arrivée de Necker a pu être assimilé à une sorte de conquête supplémentaire des Lumières aujourd'hui? enfin à l'époque.
Le règne de Louis XVI demeure pour moi quelque chose d'assez mystérieux.
Ah oui.
Parce que en réalité, on a un roi dont tout le monde dit qu'il est bienveillant, hein, qu'il répugne à faire tirer sur ses sujets. Enfin, il le fait au moment de la guerre des farines, mais c'est vraiment pas un acte normal dans sa pratique du pouvoir. Et on a une bureaucratie qui est remarquablement bien installée. Hein. Le pays est encadré, dominé. Alors, bon, par rapport à nos jours, c'est rien du tout. Mais oui. Par rapport à l'époque, c'est un bon encadrement. Et puis, je crois qu'on a les ministres les plus intelligents qu'on ait jamais eus. Turgot, Necker, alors ça, on le sait, parce qu'ils sont bien vus des philosophes. Mais si on prend Calonne ou Loménie de Brienne, c'était aussi des hommes extrêmement intelligents qui tous voulaient réformer le système.
C'était des hommes des Lumières, on peut le dire ? Non ?
Pas oui, tous. Oui, 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 c'était des hommes des Lumières.
Voilà.
Même si c'est un peu contesté pour Calonne et Loménie de Brienne, parce qu'au moment de la Révolution, on a opposé les ministres réactionnaires aux ministres populaires, Turgot et Necker. Mais en fait, si on prend leur formation intellectuelle et leur volonté de changement, ce sont des hommes des Lumières.
Si on vous écoute bien, Monique Cotteret, Louis XVI aurait... Jusqu'à quel point Louis XVI aurait-il pu instaurer une monarchie constitutionnelle, par exemple, en France ?
Mais c'est là le grand mystère.
Et donc, est-ce qu'on aurait pu se passer de la Révolution ?
Honnêtement, là, je vais un peu loin, mais oui. Je pense qu'Henri IV aurait fait une glorieuse révolution.
Oui.
C'est-à-dire qu'Henri IV aurait pu, enfin, si on se fonde sur son intelligence politique au XVIIe siècle, un monarque comme Henri IV aurait pu effectivement faire glisser le pays vers un modèle anglais un peu adapté à la culture française. Ça ne paraît pas inaccessible.
Mais Louis XVI n'a pas pu.
Alors Louis XVI n'a pas pu.
Ou bien n'a-t-il pas voulu ?
Mais je crois que Louis XVI n'a pas voulu.
Oui.
Oui, je crois que Louis XVI n'a pas
voulu.
Il
était attaché à une forme d'absolutisme.
Il avait été élevé par des disciples de Fénelon. Il ne pouvait pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'il était, je pense, décalé par rapport à l'évolution des choses à la fin du XVIIIe siècle. Et Choiseul, qui est un ministre de Louis XV et qui aurait bien voulu être un ministre de Louis XVI, mais Louis XVI ne l'a jamais rappelé, Choiseul a tout de suite vu la faille. Il a dit, on peut aider les Américains pour battre les Anglais,
oui.
C'est une revanche, ça tout à fait d'accord, mais il ne faut pas s'allier avec eux. Parce qu'une monarchie absolue ne peut pas s'allier avec des républicains.
Eh oui. Alors, on va aborder évidemment la Révolution française et le rôle des Lumières dans la Révolution. Avant cela, peut-être éclairez-nous, si j'ose dire, Monique Cotteret, sur cette entreprise absolument incroyable qui a été l'encyclopédie, donc avant la Révolution.
Oui, oui, donc, au milieu du siècle.
Racontez-nous.
Oui, oui. Eh bien, c'est une commande des libraires. C'est aussi, on prétend, enfin Diderot et d'Alembert prétendent reprendre les idées du chancelier anglais Bacon. Donc on est encore, vous voyez, ce modèle anglais. Mmh. Et c'est l'idée qui va être contestée par les forces obscures, entre guillemets, qu'un seul homme ne peut plus faire le tour des connaissances humaines.
Déjà, oui.
Comme c'était possible encore à la Renaissance. Enfin, comme on croyait que c'était possible à la Renaissance. Et donc, il faut créer des dictionnaires, il faut créer des encyclopédies pour pouvoir couvrir tous les domaines du savoir humain.
Donc, la technique, aussi bien la technique que la poésie, que l'agriculture, que la politique.
Que la politique, que les arts.
C'est ce qu'on appelle l'encyclopédie.
Oui. Alors, il y a celle de Diderot et d'Alembert, donc au milieu du siècle. Et puis, il y a l'encyclopédie méthodique de Pankouk à la fin du siècle. Mais entre ça, vous avez plein de dictionnaires.
Oui.
On n'arrête pas
de
créer.
Il y a
une effervescence.
Une soif de connaissance.
Voilà, on met le monde en dictionnaire. Oui, une soif de connaissance.
Pour le mettre à la portée de tous.
Du plus grand nombre de tous. Il ne faut peut-être pas être trop
optimiste,
mais pour le plus grand nombre.
Est-ce que ça a été un succès ? Jusqu'à quel point est-ce que l'entreprise encyclopédique a-t-elle été un succès quantitatif ?
Oui, ça a été un succès quantitatif. C'est bon, les grandes œuvres comme La Nouvelle Héloïse qui se vendent beaucoup, c'est quelques milliers, c'est ouais. jamais.
Ben oui, parce plus, que voilà. peu de monde savait lire, quand même, il faut le rappeler.
Et puis les livres coûtaient cher.
Et les livres coûtaient cher.
Ouais. Même pour les gens qui savaient lire, il était l'encyclopédie, c'était un investissement. Mais oui, ça a été un succès considérable parce que ça se diffuse. Il y a des bibliothèques qui se développent et donc il y a une lecture qui est bien plus large encore. Mmh. Que le tirage de l'encyclopédie.
Alors, jusqu'à quel point les idées propagées par l'encyclopédie, donc de façon massive, comme vous le dites, Monique Cotteret, ont-ils contribué à lézarder l'édifice politique en France ?
Bon, si on prend les collaborateurs de l'encyclopédie, ce sont pas tous des révolutionnaires, loin de là. Hein.
Des réformistes ?
Des réformistes, oui. certainement, mais pas tous dans le même domaine. Mais l'astuce de l'encyclopédie, bon, c'est bien connu, ça a été de faire des articles relativement conservateurs, traditionnels, qui passaient la censure, et puis des notes qui renvoyait à d'autres articles qui étaient beaucoup plus contestataires.
Oui, parce qu'il faut rappeler que la censure était naturelle.
Bien sûr, mais obligatoire.
Obligatoire, oui, c'est ça. Oui, voilà. Oui. Oui, donc l'encyclopédie a réussi à passer ce cap-là.
Avec des périodes de persécution, mais oui. globalement, elle a réussi à passer. Et c'est là aussi toute l'ambiguïté, parce que quand elle est interdite, qui sauve les planches et qui sauve ces Malesherbes, qui étaient pourtant chargés de la censure.
Ah oui.
Donc, ce 18e siècle est très, très complexe parce que...
Paradoxal.
Paradoxal, oui.
Et en toile de fond de tout cela, Monique Cotteret, quelles étaient les aspirations de nos aïeux, je veux dire, avant la Révolution? À quel type de liberté pouvaient-ils aspirer? Quel type de tolérance pouvaient-ils souhaiter voir se développer?
Dans les années 80, la notion de tolérance est accepté par une majorité d'Européens, puisque
c'est bien à l'échelle de l'Europe.
Oui, c'est bien à l'échelle de l'Europe. Et le premier à instituer la tolérance, c'est un monarque catholique, c'est Joseph II. Et le despote éclairé qui va le plus loin sur le plan politique, c'est son frère Léopold quand il est en Toscane. Hein. Donc il ne faut pas oublier tout cette ce qu'on appelle l'Aufklärung, ce sont des lumières, mais des lumières qui passent par le pouvoir. Alors en France, c'est plus compliqué parce que il y a eu la révocation de l'édit de Nantes et Louis XVI ne veut pas contredire son aïeul. Il ne veut plus persécuter les protestants, mais il ne veut pas revenir sur la révocation. Et il y a eu tout un travail des ministres éclairés pour faire accepter à Louis XVI une évolution vers la tolérance. Alors, en disant que Louis XIV n'avait jamais voulu ça, que c'était un malentendu, etc. Et donc, ce n'est qu'en 1787 que l'on arrive à l'édit de tolérance à l'égard des protestants, qui accorde une tolérance civile, c'est-à-dire beaucoup moins que l'édit de Nantes.
Donc on voit les tensions qui parcourent cette époque. On va faire une petite pause et puis on va poursuivre cette évocation avec notre invitée Monique Cotteret, dont je rappelle le titre de l'ouvrage co-signé avec son mari Bernard Cotteret, L'Europe des Lumières, 1680-1820, c'est chez Perrin.
Les racines du présent, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Au micro, Frédéric Mounier, nous scrutons aujourd'hui l'origine de ces fameuses lumières qui sont à l'origine donc de notre Révolution française. On va le voir dans un instant peut-être. Et puis d'un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui les bases de l'état de droit, de l'équilibre des pouvoirs, du rejet de l'absolutisme, etc. Et nous voyons donc avec notre invitée, l'historienne Monique Cotteret, d'où vient ce grand courant polymorphe, ce grand courant européen. Alors on va faire, si vous le voulez bien, Monique Cotteret, une seconde pause musicale. On va écouter Mozart. On va écouter Mozart dans son ode maçonnique. Pourquoi ? Eh bien parce que vous allez pouvoir nous éclairer, si j'ose dire, à nouveau dans quelques instants, sur la place que la franc-maçonnerie a pu occuper dans cette construction des Lumières européennes. On écoute l'ode maçonnique de Mozart.
Thank you.
un extrait de l'ode maçonnique de Mozart, Köchel 477, interprété par l'orchestre symphonique du campus d'Orsay, dirigé par Martin Barral. C'est assez funèbre, Monique Cotteret, cette ode maçonnique.
Oh, c'est, comment dire, respectueux, oui. Valorisant, mais effectivement pas... Enfin, bon, il y a des passages un peu plus...
D'accord. Mozart était lui-même franc-maçon.
Oui. Oui.
Pourquoi et quel a été l'impact de la franc-maçonnerie dans cette effervescence intellectuelle, morale, philosophique et politique de l'époque?
Là encore, c'est une maçonnie pratique qui vient d'Angleterre. Et puis, ce qui est sème dans toute l'Europe, c'est beaucoup plus une sociabilité. Et une sociabilité des élites, une sociabilité éclairée.
Oui.
Pas les élites la plus haute aristocratie, ça s'étend plus largement, mais ça reste tout de même un mouvement de sociabilité relativement restreinte.
Sociabilité, vous voulez dire une manière de se rencontrer, d'échanger?
Voilà, tout simplement. Il y a les salons,
les
clubs,
les
cafés.
Voilà.
Et il y a cette façon plus structurée, avec une hiérarchie propre au mouvement. C'est des gens de bonne volonté qui se réunissent pour réfléchir, pour mener de bonnes actions, pour essayer d'influencer sur tel ou tel point. Ce n'est pas un mouvement révolutionnaire.
Alors, oui.
Je crois que les interprétations d'un Baruel sont des interprétations. C'est un mouvement réformiste, éclairé.
Oui. Mais qui contribue quand même, si je vous entends bien, Monique Cotteret, à saper les bases de l'absolutisme, au moins en France, du lien... réputé indissoluble avec la religion, non?
C'est
pas
très,
tant que ça.
Oui, pour certains, oui, d'un certain côté, et pas nécessairement non plus. Il y a des loges féminines à la fin du siècle où on trouve les favorites de Marie-Antoinette. Donc, vous voyez, c'est un mouvement, mais c'est beaucoup de formes.
Dans une grande diversité.
Différentes, oui. Bon, par rapport à la religion, certains sont déistes. Mais d'autres sont soit protestants, soit catholiques. Il y a même des abbés dans la maçonnerie qui ne sont pas nécessairement les abbés de cour libertins.
Voilà. D'accord. Oui. Alors venons-en, si vous le voulez bien, Monique Cotteret, à ce phénomène très très franco-français. Les Lumières françaises, écrivez-vous, ont été les plus anti-religieuses. La déchristianisation révolutionnaire a bafoué la tolérance. Le catholicisme éclairé a été balayé dès 1795, puis par l'ultracisme de la Révolution. Alors peut-être faut-il, avant d'en venir à ce moment révolutionnaire précis, évoquer pour nos auditeurs, Monique Cotteret, le paysage religieux en France avant la Révolution, les tensions entre le gallicanisme, le jansénisme, les jésuites. Expliquez-nous.
Oui, c'est quelque chose qui... de mon point de vue, n'a pas été assez souligné. Tout le monde sait que les Lumières françaises sont les plus anticléricales. Ça, c'est incontestable. Et pourquoi cette violence relative des Lumières, enfin, pas relative, quand vous prenez les textes de Voltaire, ils sont violents. Enfin, on peut pas dire le contraire. Alors, je crois que l'Église catholique en France, au XVIIIe siècle, a été d'une remarquable maladresse.
Oui.
Il y avait un fort courant janséniste. Enfin, c'était un courant minoritaire, mais un courant minoritaire qui était relayé par des tas d'autres formes, comme le gallicanisme.
Rappelez-nous peut-être les caractéristiques du jansénisme.
Le jansénisme, dans un livre précédent, j'ai dit les jansénismes.
Oui, n'hésitez pas.
Oui.
Expliquez-nous.
Alors, au départ, c'est face à l'optimisme théologique des jésuites, qui sont dans le cadre de la Renaissance, qui pensent que l'homme peut parcourir à son salut. Eh bien, c'est la contestation, le retour à Saint-Augustin, et à Saint-Augustin pur et dur, qui ne croit pas que l'homme soit capable de faire son salut par lui-même. Donc, seule la grâce divine permet d'être sauvé.
Sola gratia.
Voilà.
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 Donc ça a été le...
C'est l'origine du
l'objet de tensions extrêmement fortes.
Théologique au départ.
Oui, au départ.
Théologique, et qui ne commence pas en France, qui commence avec Jansénus, à savoir en Belgique. Qui m'avait permis de dire que c'était une histoire belge.
Ah. Bon, ça, c'est une facilité.
C'est une facilité.
Bon, poursuivez, Monique Cotteret.
Et donc, alors, il y a deux moments de persécution. Ils sont persécutés en permanence. Mais il y a deux moments très forts. sous Louis XIV, quand on détruit le cimetière du monastère de Port-Royal.
De Port-Royal.
Et là, on s'en prend aux morts.
Et c'est symboliquement chose, extrêmement fort.
C'est quelque chose qui est très, très, très fort. Et le rayonnement négatif, pour ainsi dire, de cette action est très important. Et au milieu du siècle, dans les années 1750, bon là c'est Louis XIV, hein, c'est le roi qui est responsable pour le cimetière. Mais au milieu du siècle, l'archevêque de Paris considère que bon, il n'y a plus beaucoup de jansénistes, donc on va les exterminer définitivement en leur refusant le viatique.
Et le donc, viatique, c'est-à-dire
l'extrême onction.
Voilà.
Au moment de
juste avant la mort.
Voilà. Et là, il y a des tas de gens dont personne ne savait qu'ils étaient jansénistes, qui peut-être même d'ailleurs ne se disaient pas jansénistes, mais qui sont amenés à la veille de la mort. Donc on croit.
Mais oui, absolument. Au jugement dernier, à la vie éternelle.
Voilà. Ils vont être amenés à être obligés de rentrer dans des questions théologiques. Et beaucoup vont refuser de condamner le jansénisme et donc vont être privés de sacrement.
Ce qui est dramatique.
Et puis même, vous imaginez les agonisants quand vous avez un théologien ou le curé de la paroisse qui vous explique des tas de choses que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre.
Donc là, de très fortes tensions.
Des tensions immenses. Enfin, on est au milieu du siècle des Lumières.
Oui, oui.
Vous imaginez ce qu'un Voltaire peut en faire.
C'est insupportable.
Oui. Et alors, personnellement, je pense que la déchristianisation qui suivra, elle vient de ce moment-là.
De ce moment de tension.
Mais l'Église est tout de même faite pour... comment dire, assurer la transition,
l'espérance ultime.
Là, elle joue sur la mort de façon particulièrement odieuse et elle ne semble pas réaliser. Enfin, Rome est beaucoup plus prudent.
Hein,
les papes ne sont pas enthousiastes.
Nous sommes là à l'une des sources d'un certain anticléricalisme français?
Je le pense. Et c'est un épisode qui a été très peu souligné. On le connaît depuis tout le temps.
Oui.
Et je me souviens quand moi-même je faisais mes études, on parlait des billets de confession. Il y avait l'affaire des billets de confession. Mais on ne disait pas que c'était l'affaire des refus de sacrement, des enterrements clandestins comme les enterrements des protestants, les enterrements des comédiens, sur des gens qui étaient connus dans leur paroisse comme de parfaits catholiques.
Donc ça a été un ébranlement profond.
Je pense que ça a été un ébranlement extraordinaire.
Parce que nous sommes en plein siècle des Lumières. Donc cette aspiration à la tolérance,
à une certaine
forme de liberté.
À la mort privée, familiale. Et pas du tout à ce déballage théologique totalement hors de propos.
Donc à la fin de ce XVIIIe siècle arrive la Révolution française. Et donc là, une grande violence anti-religieuse.
Pas au début. On voit au contraire que les prêtres, notamment les curés, sont tout à fait favorables à la Révolution.
Majoritairement ?
Oui, majoritairement. Au début. Alors, ensuite, il y a... seconde erreur de l'Église, et cette fois, elle vient de Rome, Pie VI et Rome en général, ne comprennent pas ce qui se passe.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils ne voient pas l'ampleur du mouvement. C'est vrai que c'est difficile. Hein. On le voit bien de nos jours où les changements sont si brutaux.
Oui.
C'est parfois difficile de suivre.
Oui.
Et là, enfermé à Rome, il ne comprend rien. Et dès le départ, il dénonce les droits de l'homme. Il dénonce les droits de l'homme qui sont qui pour lui sont quelque chose de néfaste,
de satanique. De diviseur.
Le mot liberté est traduit par licence, hein, donc ce qui est tout. Et il va dès 89, il va essayer de mobiliser les souverains européens contre la Révolution française. Alors ça, on ne le sait pas tout de suite, parce qu'au contraire, en France. Au départ, même les évêques, Boisgelin qui va être un résistant, dit « Bon, cette constitution civile du clergé, il va falloir la baptiser. »
Oui, j'allais y venir. Cette constitution civile du clergé, c'est-à-dire ce serment d'allégeance à la République.
Alors, pas à la République, parce qu'on est encore sous Louis
XVI.
Hein, mais disons au mot nouveau.
Voilà.
Et
jusqu'à quel point est-ce que ça pouvait être accepté?
Ça pouvait être accepté si Rome l'avait rendu acceptable.
Ah oui.
Et Rome avait accepté, sous la monarchie, des compromis qui finalement va... c'est le pape qui va voir Joseph II. Hein, et Joseph II, ses réformes, elles sont à peu près dans le même sens que celles de l'Assemblée
constituante. Donc, si je vous entends bien, Monique Cotteret, si Pie VI s'était montré plus « tolérant », entre guillemets, nous n'aurions pas connu, par exemple, l'épisode vendéen.
Alors, là, je ne sais pas.
Oui.
Je ne sais pas. Je vous parle pour l'Assemblée constituante, la constitution civile du clergé. Mmh. Et c'est vrai que c'est le refus total de Rome qui fait que le clergé va se diviser entre les jureurs constitutionnels, patriotes et les réfractaires.
Les réfractaires. Quel a été le rôle d'un homme comme l'abbé Grégoire ?
Ben, l'abbé Grégoire, il est dans la mouvance janséniste et donc il est absolument favorable à cette constitution civile du clergé qui est gallicane. Mais Louis XIV aussi a été gallican et ça n'a pas... Il y a eu une phase difficile avec Rome, mais ça n'a pas atteint les...
On se souvient que lorsque l'abbé Grégoire est entré au Panthéon, il y a eu des tensions, encore en France.
Oui. Oui,
il y a eu beaucoup de tensions intellectuelles, spirituelles, religieuses.
Oui, oui.
L'archevêque de Paris de l'époque, le cardinal Lustiger, s'est montré plutôt opposé.
Ah, tout à fait.
Oui, c'est ça.
Oui, ça c'est le lent cheminement de la peur du jansénisme.
Alors, on arrive bientôt au terme de cette passionnante conversation sur les Lumières avec vous, Monique Cotteret, sur leur origine. Encore un mot sur la Révolution avant d'en venir au point où nous en sommes aujourd'hui. Vous posez une question cruciale, me semble-t-il, autour de la Révolution. Les Lumières auraient-elles reproduit les excès qu'elles condamnaient par ailleurs ?
Alors, est-ce que c'est les Lumières ? Est-ce que c'est tout de même...
La tolérance serait-elle devenue folle ?
C'est une phase de la Révolution, qui est une phase difficile. La France est en guerre contre toute l'Europe, et la France est en même temps en guerre civile. Donc, on peut comprendre qu'il y ait des mesures efficaces, mais difficiles. Mmh. Donc, ça peut se comprendre. Mais effectivement, ce qui est incompréhensible, c'est que la République a admis la liberté de culte, a donné un statut au clergé catholique patriote, puisque c'est le clergé majoritaire, et que globalement, ce clergé joue le jeu. C'est-à-dire que ils vont accepter le mariage civil. Ils disent,
c'était une révolution.
C'était une révolution, mais ils vont dire, c'est très bien, parce que nous, on n'aura plus à marier que des catholiques. Mmh. Les gens n'auront pas besoin de faire semblant. Et comme ça, on pourra vérifier quand on donnera le sacrement qu'ils sont vraiment catholiques.
Ils ont joué le jeu, jusqu'à quand ?
Alors, c'est pas un clergé unanime. Mmh. Mais disons que la rupture, alors notamment pour les jansénistes, ils sont faciles à suivre parce qu'ils ont un journal. Hein, donc, on peut savoir ce qu'ils pensent. Et eux, vraiment, ce qu'ils ne supportent pas, c'est le mariage des prêtres. Oui. C'est vraiment le point sur lequel ils ne veulent pas suivre. Mais ce n'est pas vrai de tout le clergé constitutionnel. Mmh. Donc,
on continuerait à vous écouter pendant des heures, Monique Cotteret. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette édition. Aujourd'hui, venons-en à aujourd'hui, vous constatez, comme nous tous, que partout dans le monde, les droits de l'homme sont contestés, que les régimes pour le moins illibéraux prospèrent, que les autocrates ont la main sur le monde. Vous qui êtes spécialiste des Lumières, quel regard vous portez sur cette évolution du monde ?
Pour moi, c'est parfaitement insupportable.
Ouais.
Par exemple, le retour de l'antisémitisme, c'est quelque chose que je ne pensais pas vivre.
Non pas
qu'il ait jamais totalement disparu, mais il n'était plus revendiqué. Mmh. Or maintenant, c'est devenu quasiment une banalité.
Ouais.
Le fait que la jeunesse conteste la démocratie ou n'en voit pas l'intérêt...
Ne vote pas du tout.
Ou très peu, oui. Mmh. Et puis surtout que... Alors, on m'a souvent demandé, au fond, quels sont les termes principaux pour les Lumières. Donc au début, je disais raison, tolérance, liberté. Et puis, en y réfléchissant, je me dis que c'est le mot critique qui est le plus important.
Esprit critique.
On a perdu l'esprit critique.
Ah, voilà.
Et ça, je trouve...
Capacité à rationaliser.
Voilà, je ne dis pas qu'au XVIIIe siècle, ils étaient tous performants dans leur critique du monde. Mais ils avaient cette volonté de comprendre, d'analyser, de comparer, de réfléchir, d'argumenter. Mmh. Et ça, moi, j'ai l'impression que ça s'atténue énormément.
C'est en train de se vaporiser.
C'est en train de se vaporiser.
Et ça vous inquiète ?
Ah, énormément. Oui. Énormément. Mmh. Je ne me reconnais plus dans ce monde qui perd cet esprit critique.
Donc, à vos yeux, Monique Cotterêt, le legs ultime des Lumières, ça serait ça. Ça serait l'esprit critique.
L'esprit critique. Oui. La dialectique, ça va avec le pour, le contre, l'échange, l'argumentation.
Oui, le débat.
Et puis j'ajouterais alors l'universel.
Oui.
L'idée qu'il y a tout de même un certain nombre de choses qui sont des valeurs universelles, qui s'expriment plus ou moins bien à tel ou tel moment de l'histoire. Oui. L'histoire, c'est jamais parfait. Mmh.
Mais qui contestez formellement ceux qui nous disent aujourd'hui que les droits de l'homme, c'est une invention occidentale.
Alors, de fait, c'est une invention occidentale, donc ça, je ne peux pas le contester. Mais effectivement, je regrette infiniment que ce ne soit pas une valeur universelle.
Merci beaucoup à vous, Monique Cotterêt, pour cet ultime message d'espoir. Je rappelle le titre de votre livre, co-signé avec votre mari, Bernard et Monique Cotterêt, donc « L'Europe des Lumières, 1680-1820 ». C'est chez Perrin. C'est, il faut bien le dire, une grosse brique, mais c'est une grosse brique passionnante et qui permet justement de comprendre les divers aspects, les diverses facettes de cet esprit des Lumières que nous avons essayé d'évoquer, de brosser avec vous. Un grand merci. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de Monique Cotterêt sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame. Vous pouvez évidemment nous réécouter ad libitum en podcast, en balado diffusion, dans le train, dans le métro, dans le bus, en voiture, en marchant à pied. Vous pouvez commencer à nous écouter le matin et finir le soir en rentrant chez vous. Bref, c'est le lieu d'une grande liberté pour cultiver cet esprit critique que nous évoquons justement avec Monique Cotterêt. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité, un grand merci à Pierre-Henri Paget pour sa réalisation, et nous vous disons à la semaine prochaine.